Vous écoutez RTL.
Il est 18h.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Bonsoir à tous, en direct du salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, en direct du studio RTL installé sur le stand de Génération Fruits et Légumes Frais au pavillon 2-2. Une première journée marquée par la visite parfois mouvementée d'Emmanuel Macron, visite marathon. Le président est arrivé un peu avant 8h ce matin et il est toujours là. Il vient de passer d'ailleurs il y a quelques instants devant le studio RTL. Il a eu des échanges parfois musclés avec des agriculteurs. On va vous retracer la journée du chef de l'État. On ira assister également à la remise des prix du concours des jeunes bergers. Et puis à 18h20, invité de RTL Soir, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. À suivre également, l'affaire Seznec peut être relancée 95 ans après la disparition de Pierre Quémeneur en Bretagne. On a découvert un os humain aujourd'hui lors de fouilles dans une maison où vivait la famille Seznec à Morlaix dans le Finistère. Détail dans un instant. Marine Le Pen en Alsace, dernière rencontre avec les militants avant le congrès du FN. La présidente du Front en a profité pour assumer la rupture avec son père et avec Florian Philippot. Sur les routes, une journée chargée en direction des stations, mais tout à peu près rentré dans l'ordre à l'heure qu'il est. 15 médailles, ce sera le bilan définitif des Français au JO de Pyeongchang. Ils égalent, mais ne dépassent pas le record de Sochi. En football, 27e journée de Ligue 1. Depuis 17h, Toulouse accueille Monaco sous les yeux de Patrick Hisson.
C'est la mi-temps et à la mi-temps, partout entre Toulouse et Monaco, les Monégasques qui avaient ouvert la marque par Rony Lopez. Puis le match s'est équilibré, égalisation toulousaine de Sangaré. Ça va reprendre et ça reprend même à l'instant.
Merci Patrick. En Ligue 2 cet après-midi, Brest est allé gagner 1-0 sur le terrain du Paris FC. Rugby dans le tournoi des 6 nations au lendemain de la victoire du 15 de France face à l'Italie. L'Irlande a battu le Pays de Galles 37-27. Les courses, Quintet Plus cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, combinaison gagnante 13, 15, 7, As et 10. Un peu après 18h20, Bernard Glass et Claude Piersanti, leur prono pour demain à Vincennes. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
La tendance météo?
Ce sera encore très ensoleillé demain sur une bonne partie du pays, mais encore bien froid avec une nouvelle baisse des températures à partir de demain après-midi. Dans le sud-est, le temps restera encore très nuageux et quelques averses. Et attention, le risque d'avalanche sera encore très marqué sur les Alpes frontalières.
Merci Patricia. Prévision complète dans un quart d'heure. Avant de revivre la journée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, cette découverte qui va peut-être relancer l'une des affaires judiciaires les plus mystérieuses de notre pays, l'affaire Seznec. Il est trop tôt pour parler de rebondissement. Un os humain a été retrouvé aujourd'hui lors de fouilles dans la maison où vivait la famille Seznec à Morlaix dans le Finistère. En 1924, je vous le rappelle, Guillaume Seznec fut condamné au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de Pierre Quémeneur, un homme dont on n'a jamais retrouvé le corps. Fabien Randrianarissoa, bonsoir.
Bonsoir.
L'avenir nous le dira, mais on est peut-être à un moment clé de cette incroyable affaire.
Ah oui, pour avoir un ordre d'idée, Philippe, la police a déjà perquisitionné 3 fois la maison au cours du siècle dernier, sans résultat. Cette fois, ce sont des bénévoles aidés d'un tractopelle qui pensent avoir trouvé la preuve, selon laquelle Pierre Quémeneur aurait été tué accidentellement dans cette maison de Morlaix par la femme de Guillaume Seznec, à qui il faisait des avances. Bertrand Gillin, coordinateur des recherches, croit tenir la réponse à 95 ans de questions.
C'est un os humain avec un morceau de pipe. On est quasiment sûr que c'est Pierre Quémeneur. Donc, Guillaume Seznec était sûrement un escroc, un faussaire, un menteur, peut-être voleur, mais pas un assassin.
Une théorie à laquelle le petit-fils du bagnard, Denis Seznec, n'a jamais cru, même après cette nouvelle découverte.
Il y a quand même un doute. Hein. Il y a un bout d'os qui est-ce qu'il l'a mis. Il peut être mis par quelqu'un. Hein. Enfin, heureusement que l'ADN existe hein, quand même. Accuser ma grand-mère de l'avoir tuée accidentellement. Il y a déjà le deuxième point qui me paraît incroyable, c'est que ma grand-mère est morte assez jeune. Et mon grand-père est au bagne, il refuse sa grâce au bagne, mais il aurait pu dire qu'il portait le chapeau pour quelqu'un qui est mort. Il ne l'a pas fait. Pour ça, je suis perplexe.
Depuis 1924, 14 demandes en révision du procès ont été rejetées. Si l'ADN confirme qu'il s'agit bien de Pierre Quémeneur, la 15e pourrait bien être la bonne.
Fabien Randrianarissoa, merci. L'an dernier, il était candidat, il s'était pris un œuf sur la tête. Cette année, il est président et c'est au contact, face à face, que les agriculteurs ont pu s'adresser à lui aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron, bien sûr. Une journée mouvementée pour lui, porte de Versailles. Le président arrivait un peu avant 8 heures et toujours là. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Le président a parfois été applaudi, mais il a surtout été sifflé aujourd'hui. On revit avec vous sa journée marathon.
Ah oui, c'est un marathon qui se poursuit à quelques mètres du studio RTL derrière nous, sur le stand des fruits et légumes. Emmanuel Macron l'a promis, il sera là jusqu'à la fermeture du salon. 12 heures à caresser les animaux, à rassurer ici les vignerons, là les éleveurs laitiers, mais aussi à se faire chahuter. Dès son arrivée, il essuie les sifflets. Des agriculteurs tentent de couvrir chacun de ses mots. Agacé, Emmanuel Macron monte au contact face à un céréalier pro-glyphosate.
Les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Non mais d'accord.
Attendez,
mais
dites, nous on est calme.
Non. Attendez, vous êtes calme.
Oui, je suis calme, moi.
Non, vous m'avez sifflé dans d'autres tout à l'heure.
Merci pour les leçons. On est chez nous ici.
On est chez nous tous. Ça s'appelle la France et c'est une république.
Alors, montrer les muscles, voilà la méthode Macron pour faire taire les sifflets. Et à en croire le président, ça fonctionne.
J'ai vu des gens qui se cachaient à 500 mètres pour siffler. Ils étaient très minoritaires. J'ai cassé les parcours et les codes pour aller au-devant d'eux. Et sans arrêter de siffler, on s'est expliqué. Et je crois qu'ils ont compris.
Alors, il se trouve que nous avons retrouvé ce jeune agriculteur à l'origine de l'altercation. Il s'appelle Alexandre Ruech. Il est céréalier en Ile-de-France. Et il donne une toute autre version des faits au micro de Dominique Tenza.
Si on a arrêté de siffler, c'est parce que dans nos troupes, les chefs, on a demandé d'arrêter de siffler. Sinon, on aurait continué. C'est pas lui qui nous dit si on doit siffler ou pas siffler.
Est-ce que vous l'avez senti sincère ?
Très moyennement. Très honnêtement, j'ai pu discuter avec d'autres représentants politiques. Chez certains, j'ai ressenti de la sincérité, chez lui, aucune.
Alors, on vient de l'entendre, les échanges, Marie, ont parfois été virils avec les agriculteurs, mais il n'y a pas eu que ça. Emmanuel Macron a parfois aussi été acclamé.
Ah oui, c'est l'autre visage de ce salon. D'un côté, les sifflets des agriculteurs, de l'autre, les applaudissements, l'enthousiasme des visiteurs au passage du président, un peu comme des groupies qui rêvent d'approcher leur rockstar.
Emmanuel !
Emmanuel !
Monsieur le Président !
Monsieur le Président !
Comment ça va ?
Ça va bien, merci à vous.
Oui.
Je vous admire.
On peut prendre une feuille ?
Mais oui, alors je mets pour qui ?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Alors Emmanuel Macron doit maintenant rejoindre le stand des brasseurs. Déjà 2 heures de retard sur le programme. Il voulait battre un record de présence. Il est pour l'instant bien parti.
Merci Marie Mollet. 650 000 visiteurs l'an dernier, le salon de l'agriculture, malgré les crises. Ça reste un grand rendez-vous populaire. On a encore pu le mesurer toute la journée. On a vu des familles entières repartir avec des sacs de fromage ou de la charcuterie. On a vu des enfants les yeux écarquillés face aux vaches de toute race. On aura noté également cette année le retour des gallinacés, absents l'an dernier pour cause de grippe aviaire. Les palmipèdes ne sont acceptés cette année que s'ils sont vaccinés. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir Philippe.
Parmi les centaines d'attractions qui attirent le public au salon, une salle de cinéma, vous y êtes allé, on est littéralement immergé dans une ferme.
Voilà, vous êtes dans une ferme en 3 dimensions avec sur les murs des films de vaches, on voit la traite, et puis il y a des chiffres, et vous rencontrez un vrai éleveur, Bruno. Alors Nina, qui a 7 ans, lui a posé une question.
Combien de kilos d'herbe une vache mange tous les jours ?
Alors une vache peut manger jusqu'à 100 de kilos d'herbe par jour.
C'est beaucoup.
Alors on découvre aussi qu'une vache boit entre 50 et 100 litres d'eau par jour et qu'elle produit 30 litres de lait. Sylvie, la maman de la petite fille, a appris des choses elle aussi.
C'est des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, donc c'est vrai qu'au niveau des quantités, on ne se rend pas bien compte. Forcément, ça revient cher en coût d'alimentation pour les éleveurs aussi.
Quand vous allez acheter votre litre de lait, vous comprendrez mieux le prix ?
Ah oui, tout à fait. Enfin, c'est justifié, c'est même faible. Je trouve que le prix du lait est faible par rapport aux efforts que font les agriculteurs pour nourrir les animaux, les soins vétérinaires, tout ça. On comprend que ça ne compense pas, oui.
Voilà, le public du salon est très curieux ici. Et ce qu'il aime après, évidemment, c'est déguster. Donc Nina et sa maman sont allées directement à 2 pas goûter du Beaufort.
Ils ont bien de la chance. Merci Virginie Garin. Le salon, vous le savez également, ce sont des dizaines de concours agricoles, des compétitions en tout genre. Bonsoir Jacques Seret.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct quelque part dans le salon. Vous avez suivi cet après-midi le concours des jeunes bergers. On est à quelques minutes, je crois, de la remise des prix. Vous êtes aux côtés du vainqueur de l'an dernier.
Oui, exactement. Et nous sommes au milieu du grand salon qui s'est déroulé cet après-midi et toute la journée. Ce concours des jeunes bergers. Et je suis aux côtés de l'auguste du gagnant de l'an dernier qui faisait aujourd'hui partie du jury. Alors comment c'est Nicolas Harpin ce concours aujourd'hui ?
Eh bien très bien, comme les autres années, on a
des concurrents très motivés, comme je l'étais l'année dernière et comme étaient mes collègues. Donc c'était passionnant de voir encore d'autres jeunes aussi passionnés que moi.
Quelles étaient les épreuves aujourd'hui ?
Alors il y en a plusieurs, il y en a des théoriques avec un quiz et une reconnaissance des races, et pratiques, l'état de finition des agneaux, le parage des onglons, une épreuve génétique, une épreuve sanitaire, une épreuve de manipulation avec l'état corporel des brebis et de tri avec un logiciel de gestion de troupeau.
D'accord, c'est assez complexe, il faut un peu d'expérience. Or, tous les concurrents font partie de différents lycées agricoles, ils viennent tous, il y en a deux représentants par région, donc vous allez remettre le prix. Tout à l'heure, je suppose qu'il y a un peu d'émotion avant de lâcher votre titre.
Ah bah oui, mais c'est aussi une fierté voilà, de voir qu'il y en a d'autres également qui sont investis, qui sont également compétents dans ce métier, et ce sera avec plaisir de transmettre ce titre de meilleur jeune berger de France.
Merci Nicolas. Et puis les concours ne font que débuter aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, puisque demain, place au concours de race Montbéliarde et demain après-midi, concours de vaches normandes.
Merci Jacques Serret. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce premier jour du Salon de l'Agriculture qui fermera ses portes le dimanche 4 mars, la semaine prochaine. Le président Macron, je vous le rappelle, continue sa visite en ce moment. Il est là depuis maintenant plus de 10 heures. Dans quelques instants, on va recevoir Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Je vous rappelle que le studio RTL, venez nous voir, est installé dans le hall 2-2 sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais. On marque une petite pause dans ce RTL Soir. Dans un instant, Marine Le Pen qui répond à son père.
RTL Soir, Philippe Robuchon.
Marine Le Pen était en Alsace aujourd'hui, à Kinsheim exactement, dans le Bas-Rhin. C'était sa dernière rencontre avec les militants avant le congrès du FN qui aura lieu dans 15 jours à Lille. L'occasion pour elle de répondre aux attaques tous azimuts dont elle a fait l'objet ces derniers jours. Attaque de Florian Philippot, dimanche, au congrès des Patriotes. Mais surtout attaque de son père, Jean-Marie. Dans le premier tome de ses mémoires qui paraît la semaine prochaine, il a ces mots. « Un sentiment me domine quand j'y pense, j'ai pitié d'elle ». Aujourd'hui, donc, en Alsace, Marine Le Pen a répondu.
Jean-Marie Le Pen et Florian Philippot, j'ai rompu avec eux. J'ai rompu car la vision de l'un ou la vision de l'autre s'écartait de la vision qui est la mienne. Donc j'ai assumé mes responsabilités. Je note que, encore une fois, personne ne remet en cause la ligne politique que je porte. Si c'était le cas, il y aurait des candidatures probablement qui auraient émergé à la tête du Front National. Je ne suis pas là pour être la source d'inspiration des uns ou des autres. Je suis là pour me battre pour mon pays, mais aussi pour la souveraineté avec nos alliés européens de tous les pays et peuples d'Europe.
Marine Le Pen au micro RTL de Samuel Goldschmidt. À l'étranger, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit théoriquement se réunir dans les minutes qui viennent pour examiner la situation critique en Syrie. Une vingtaine de personnes ont encore été tuées ce matin dans des bombardements sur la région de la Ghouta orientale. Plus de 500 morts en une semaine. En France, sur les routes, la journée aura été chargée. Aujourd'hui, il faut dire que trois zones se croisent ce week-end, alors qu'il est tout est à peu près rentré dans l'ordre, mais que le voyage fut long, notamment pour ces familles. Carnot Grange a accueilli tout à l'heure à leur arrivée à la station des Saisies, en Savoie.
Il y a eu les bouchons, les coups de frein, la circulation en accordéon pour beaucoup des kilomètres de galère. Après 11 heures de route pour parcourir plus de 800 kilomètres depuis Seclin dans le Nord, Reynald arrive exténué.
C'est usant là, ouais, c'est usant et d'autant plus que là j'ai pas fini. Il faut encore enlever les affaires. Mais ouais, si c'est fatigant, mais bon. On a fait le plus dur et puis là on est là pour 15 jours, donc c'est top.
Une arrivée sous le soleil et dans un décor à couper le souffle, une délivrance pour Isabelle et Claire.
C'est le bonheur, vous voyez. C'est que du plaisir.
On va prendre notre temps là, ça y est.
Ouais.
On a repéré les bons restos, tout ce qu'il fallait. Non, c'est chouette là. C'est très joli en plus. Ça commence bien.
Pour certains, pas question de perdre la moindre seconde. À peine arrivée, cette Parisienne chausse ses skis.
Là, c'est la première descente. Là. C'est vraiment les premières minutes. Ah ouais, c'est le grand moment. Ça y est, c'est parti. Une grande envie d'y aller parce qu'il fait très beau. La neige a l'air très sympa et on a envie d'en profiter. Là, ça y est, on le sent bien. Rien que le paysage, on est déjà détendu. C'est assez magique, ouais.
Les galères de la journée sont déjà oubliées. Place désormais au bonheur.
Un reportage au 16 signé Arnaud Grange pour RTL. On revient au sport en direct, la 27e journée de Ligue 1, Toulouse-Monaco. Où en est-on, Patrick Hisson?
Eh bien, ce sont les Monégasques qui ont pris l'avantage grâce à un nouveau but de Rony Lopez qui avait déjà ouvert le score en première période, 2-1 pour Monaco, sans être brillant mais qui est efficace ce soir au Stadium, les Toulousains, et qui avait égalisé en première période grâce à Sangaré. Tout reste possible dans cette rencontre à une demi-heure de la fin. C'est Monaco qui mène à Toulouse 2-1.
Patrick Hisson, ce soir, 5 autres matchs à suivre dans le multiplex RTL, l'équipe animée par Christian Olivier et Pascal Praud à partir de 19h30. En rugby, au lendemain de sa victoire face à l'Italie, le 15 de France a déjà la tête au match France-Angleterre dans 15 jours. Les Bleus évitent la cuillère de bois dans le tournoi, mais ils savent que contre les Anglais, ce sera une autre paire de manches. Cet après-midi, l'Irlande a battu le Pays de Galles 37-27. Après une demi-heure de jeu, l'Écosse mène 10-6 face à l'Angleterre. Aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, le bilan définitif des Français reste à 15 médailles, le même qu'à Sochi il y a 4 ans. Demain, pour la cérémonie de clôture, c'est Gabriela Papadakis, médaillée d'argent en danse sur glace, qui portera le drapeau de la délégation française. La météo, rebonsoir, Patricia Charbonnier.
Et bien pour ce soir, c'est encore un temps très froid avec le vent qui souffle sur la moitié nord du pays, le vent de secteur nord-est qui accentue la sensation de froid. Et pour demain, ce sera exactement le même type de temps, des conditions météo anticycloniques, le soleil qui va donc s'imposer assez facilement sur la plupart des régions, excepté comme aujourd'hui sur l'extrême sud-est, où là nous aurons un temps instable avec encore des averses entre la Côte d'Azur et la Corse et encore de bonnes chutes de neige attendues sur les Alpes du Sud. Et attention, le manteau neigeux est très instable, on a eu de fortes rafales de vent aujourd'hui, donc le risque d'avalanche sera encore très marqué demain sur les Alpes frontalières, avec des températures comprises entre moins 5 et 7 degrés demain matin. Donc encore des gelées assez marquées, moins 5 à Mulhouse, moins 1 degré à Tours, 7 degrés à Toulon. Et pour demain après-midi, là, la baisse des températures va se poursuivre avec cet air glacial qui nous arrive tout droit de Russie, qui va s'infiltrer par le nord-est du pays. Donc température en baisse déjà dans un premier temps sur la moitié nord, avec seulement moins 1 degré à Langres, 1 degré à Nancy, 3 degrés à Paris, à Lille, 5 à Lyon, 7 degrés à Brest et Limoges et jusqu'à 14 degrés à Perpignan. Et donc en début de semaine, ça se confirme avec cette vague de froid, ce Moscou-Paris qui va gagner l'ensemble du pays, des températures autour de moins 5 et localement moins 8, moins 9 degrés pour la matinée de lundi sur la moitié nord. Mais avec le vent de nord-est qui va souffler assez fort, eh bien le ressenti sera localement de moins 10 voire moins 15 degrés sur les régions de l'est. Alors avec un temps qui restera encore très ensoleillé jusqu'à mardi, mais à partir de mercredi, on va surveiller une perturbation qui va remonter de Méditerranée avec de l'air plus doux, et donc cette dégradation se fera soit sous forme de pluie, mais sans doute aussi sous forme de neige à confirmer.
Merci Patricia Charbonnier. 18h18, dans un instant, toujours en direct du Salon de l'Agriculture, l'invité de RTL Soir, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.